deuxième. Et en deuxième lieu, nous lirons dans Psaume 37, 4 à 11. En roi, chapitre 19, le premier verset dit ceci. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comme il avait tué par l'épée tous les prophètes, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voya cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur pour lui. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant : c'est assez maintenant. L'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit : lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit : lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il s'éleva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne des dieux à Horeb. Amen. Nous lisons aussi dans Psaume. Quatrième vers, il est dit : fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'inquiète, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient au bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retrachés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, pendant ces moments, nous laissons nos cœurs et nos oreilles ouvertes devant toi, pour que tu nous parles. Tu connais chacun de nous, tu connais ce qu'il attend de toi. Utilise-moi comme l'instrument entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le thème de ce dimanche est intitulé « Remets ton sort à l'Éternel ». Remets ton sort à l'Éternel. Et je veux juste parler de ces passages d'Élie et puis donner la réponse qui signifie faire de l'Éternel ton délice, bien tes délices, et aussi qui signifie remettre son sort à l'Éternel et avoir confiance à Dieu. Alors que nous sommes en train de clôturer une semaine de prière, pour ceux-là qui n'ont pas d'emploi, pour ceux-là dont les contrats sont rompus, pour ceux pour qui les affaires ne marchent pas, pour les gens qui attendent le mariage, pour ceux-là qui vivent dans des familles en dislocation, pour les chrétiens saisonniers, pour l'achat des parcelles, la construction et tous les autres sujets qui jusque-là ne sont pas répondus. Nous avons été tellement bénis et richement bénis par cette semaine et de verser nos cœurs devant le Seigneur. Et nous disons merci pour cette grande espace qu'on nous a donné pour que nous puissions exprimer nos besoins, nos désirs, ce dont nous avions besoin devant le Seigneur. Nous avons répandu nos cœurs devant le Seigneur. Et je ne vais pas répéter vraiment tout ce qui était dit, sinon je serai trop longue. Sinon, le premier jour, le thème était « Oh Dieu, ne me cache pas ta face ». Et nous avions demandé à Dieu d'être attentif à nos prières. Et sa parole nous a rassuré qu'il était vraiment attentif. Quand l'indigent crie à lui, il vient à son secours. Le mardi, c'était « N'aie pas peur, reste calme, la délivrance est à ta porte ». Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous n'avons même pas raison d'en avoir, puisque la délivrance est à notre porte. Alors que les enfants d'Israël voyaient devant eux la mer Rouge, derrière eux c'était l'armée de Pharaon, mais le Seigneur les a dit, restez calmes, n'ayez pas peur. Et nous n'avons pas raison d'avoir peur à cause de ce qui nous entoure comme difficulté. Le mercredi, c'était « Ne te laisse pas abattre, lève-toi ». Et c'est le texte que nous venons de lire. Nous n'avons pas raison d'être découragés outre mesure et de ne plus compter sur Dieu. Nous avons encore des choses à faire avec le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Le jeudi, on a parlé des conditions pour les ossements. Si nous nous humilions devant le Seigneur, si nous nous répandons, si nous confessons nos péchés et que nous lui demandons quelque chose, le Seigneur interviendra. Le vendredi, c'était « Invoquons l'Éternel et il agira ». Lorsque nous invoquons l'Éternel, nous devons savoir que nous lui avons remis nos fardeaux et c'est à lui d'agir. Il agira à son temps, mais il agira certainement. Le samedi, c'était l'agir de Dieu sera visible. Quand nous prions l'Éternel, quand nous avons mis confiance en lui, le monde verra que réellement c'est le Seigneur qui a fait ceci. Le Seigneur a agi pour délivrer l'indigent, pour délivrer celui qui avait les yeux fixés sur lui. Alors avec ces thèmes, recommande ton sort à l'Éternel. On veut nous inviter à donner, à abandonner tout ce que nous avons à l'Éternel, à les amener comme les possédants, mais nous les amenons devant l'Éternel pour que l'Éternel s'acharge. Alléluia. Alors ici, avec les textes que nous avons lus dans 1 roi, c'est Élie, après une grande démonstration que celui qui l'adore, c'est le vrai Dieu, puisqu'il a fait descendre du feu. Et le feu a consumé de l'eau, le feu a consumé la viande, le feu a consumé même l'autel et tout ce qui était. Et il a fait tuer tout le prophète de Baal, tout le prophète qui était dans le feu. C'est le lendemain, c'est le jour même où le roi Achab ira annoncer cela à Jézabel, sa femme. On a tué tout le prophète. Et quand Jézabel a entendu cela, elle a juré. C'est une imprécation que Jézabel a faite. Elle a juré, vraiment devant mes dieux, si je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun de, demain à 7 heures, alors je ne suis pas chez Isabelle. Et à cette voix, quand on a envoyé cette personne aller dire à Élie, Élie a fui. Élie a eu peur. Il a voulu sauver sa vie. Il est parti. Arrivé après un jour, il a abandonné son serviteur et il est parti encore seul. Puisqu'il ne savait pas où il allait, mais il était là pour sauver simplement sa vie. Dans sa course, il fut découragé. Il fut abattu. Ce qui a été dit au premier, c'est que Élie a eu peur. Il a eu très peur. Dans d'autres versions, on a dit Élie a pris peur, prendre la peur. Donc, il était dans l'abattement. Il était incapable de comprendre que Dieu peut le secourir. Il a vu seulement, il a compris tout simplement que si Jézabel a juré que je mourrai, donc demain, je mourrai. Alors il faut que je puisse sauver ma vie. Élie est parti et après ces deux jours-là de marche, Élie a demandé sa mort. Jézabel voulait sa mort. Et comme Élie ne voulait pas mourir, pour sauver sa vie, il s'est enfui. Mais après deux jours de marche, après sa fatigue et son découragement total, il demande quoi? Pourquoi alors il a fui? Il pourrait attendre que Jézabel les tue et que ça finisse par là. Il y a beaucoup de choses que nous traversons, mais Dieu avait encore à faire avec Élie. Et c'est pour cela qu'il va le réveiller à travers son ange à deux reprises, lui donnant la nourriture. Quand Élie a fini en manger pour la première fois, il s'est rendormi. Mais encore l'ange est venu et l'a réveillé et lui a dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Élie devait encore consacrer le roi, il devait encore consacrer celui qui doit le remplacer comme prophète. Il devait encore faire beaucoup de choses. Et vous pouvez vous imaginer si Élie mourait à cet endroit-là et ce jour-là, que deviendrait Élisée? Est-ce que Élisée aurait vraiment ses manteaux miraculés? Non. Est-ce que Jéhu serait consacré comme roi? Non. Alors, dans ce passage, ce que je voudrais que nous puissions comprendre, c'est deux choses. La première est que parfois quand nous sommes abattus, parfois quand nous sommes découragés, nous pouvons changer de langage et commencer à dire des mauvaises choses même contre notre propre vie. Nous commençons à prononcer les mauvaises paroles qu'on a prononcées contre nous, les ennemis ou bien les Jézabel qui sont autour de nous. Et ce n'est pas une bonne chose. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, je ne sais pas ce que tu ressens, je ne sais pas ce que tu traverses. Mais il y a de ceux-là, par exemple, à qui on a dit, tu n'auras pas le bonheur dans ta vie. La première année, il peut se débrouiller quand il finit ses études pour écrire des demandes d'emploi. Partout, il va écrire ses lettres-là. Mais la deuxième année, quand ça dure, deuxième année, troisième, il commence à dire, ma tante avait déjà dit que je n'aurais pas de bonheur. C'est vrai, je ne l'aurais pas. Il commence à professer les mêmes choses qu'on lui avait dit. Même pour les mariages. Pendant la première année où tu penses encore que c'est possible, tu as encore moins de 25 ans, tu penses que c'est possible, c'est encore. Ce n'est pas encore un problème grave. Tu peux concentrer avec ces paroles et dire non, je sais que ça va passer. D'ailleurs, tu n'as pas la force que moi, je sais que Dieu a déjà anéanti. Mais la deuxième marche, après 25 ans, tu commences à te dire mais c'est comme si ce qu'on avait dit c'est vrai, je ne me marierai pas. Et ainsi de suite dans l'entreprise, dans des entreprises où nous sommes, dans des activités que nous faisons. Puisque ça n'a pas marché aujourd'hui, et comme tu as entendu des paroles hier, ça commence à devenir ta vie. Alors ce matin, l'ange de l'Éternel vient te réveiller et te dire, lève-toi, ne t'abats pas, ne te décourage pas. Dieu a encore à faire avec toi. Alléluia. Il y a encore des grandes surprises dans ta vie avec le Seigneur. Il ne faut pas mourir en cours de chemin. Tu as déjà attendu pendant longtemps. Ce n'est pas le temps de mourir. Ce n'est pas le temps de mourir. Dieu a encore à faire avec toi. Alléluia.
Amen.
Je suis en train de dire à mes consoeurs, vous avez attendu pendant longtemps que le Seigneur vous donne de la foi. Des enfants plutôt. Vous avez 5 ans de mariage, 7 ans et ainsi de suite. Quand c'est une année, on peut encore attendre avec beaucoup d'espoir. Mais 5 ans, tu commences à te décourager et à dire, c'est comme si le Seigneur m'a oublié sur la liste. Et tu peux dire à Dieu, j'ai besoin de mourir, puisque je ne veux plus vivre dans cette opor. Je ne veux plus continuer à souffrir ainsi. Je ne veux plus écouter les injures de ma belle famille ou de ma famille. Je ne veux plus attendre ce que disent mes ennemis. Je veux en finir. Je veux finir avec. Mais ce n'est pas le temps de mourir. Tu as longtemps attendu. Espère encore à l'Éternel. Il agira. Alléluia. Tu ne dois pas mourir comme ça, avec ces statuts qu'on a dit de toi. Tu ne dois pas mourir stérile. Il faut encore avoir confiance à Dieu. Il a encore à faire avec toi. Il a des surprises. Il a une histoire qu'il veut formuler avec toi pour que demain après demain, tu puisses témoigner de la grâce de Dieu. Alors, à ce jour, comme je l'ai dit, il y a une question qui se pose par rapport à ces versets qui sont en psaume. Au 4e vers, il est dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Que signifie faire de quelqu'un ou bien faire tes délices de l'Éternel? Faire nos délices de l'Éternel. Faire de l'Éternel nos délices, ça signifie ressentir un plaisir, une joie véritable en sa présence. Je sais que quand vous êtes dans la présence de quelqu'un qui vous aime ou bien de quelqu'un que vous aimez bien, vous ne voulez pas sortir de cette présence, n'est-ce pas? Et ça vous fait oublier beaucoup de dettes, ça vous fait oublier tous ceux qui ne veulent pas de vous, vos ennemis, ainsi de suite. N'est-ce pas vrai? Et c'est là ce que demande ce psalmiste David. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Que tu trouves ton plaisir dans l'Éternel. Que tu trouves ta joie véritable dans la présence de l'Éternel. C'est une prise en fait de conscience de son grand amour pour nous. Quand nous reconnaissons que le Seigneur vraiment nous aime, quand nous reconnaissons que le Seigneur prend en charge tout ce que nous sommes, que notre vie est précieuse devant les yeux du Seigneur, quand nous prenons conscience de cela, cela ne peut que nous procurer de la joie et du plaisir. Alléluia. C'est pour cela que quand le psalmiste dit de faire de l'Éternel notre délice, il est en train de nous inviter d'abandonner un peu nos problèmes, puisque notre Dieu s'en occupe. De voir le Seigneur et de trouver la joie dans sa présence, d'oublier tout ce qu'il y a comme problème, d'oublier tout ce que nous avons comme souci et avoir la joie devant le Seigneur, celui qui nous aime. C'est lui qui nous prend à charge. Et quand nous ferons vraiment de lui notre plaisir, il nous donnera ce que nos cœurs désirent. Il est capable de nous le faire. Il est capable de nous le donner. Mais le verset aussi 5 dit, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Recommander son sort à l'Éternel, c'est tout abandonner à l'Éternel. C'est lui confier toute notre vie. C'est lui confier toute notre famille. C'est lui confier tous nos biens. C'est lui confier toute notre responsabilité. C'est lui confier tout ce que nous croyons que c'est ce que nous possédons. Nous lui donnons toute notre possession. C'est ça, recommander à l'Éternel son sort. Je ne sais pas ce que tu as. Tu as recommandé à Dieu quoi et tu as abandonné d'autres. Parfois, nous venons prier et nous rentrons avec nos fardeaux à la maison. Je lui laisse ça, mais pour ceci, je crois qu'il n'a pas bien attendu, je rentre avec. Et ça continue à nous faire mal. Ça continue à nous à peser sur nous, puisque effectivement nous sommes venus et nous sommes rentrés avec nos problèmes. Est-ce que nous avons confiance à Dieu? C'est pourquoi ici, quand on dit faire confiance à Dieu, c'est en fait croire qu'il peut s'occuper de nous mieux que nous-mêmes. C'est ça, faire confiance, lui faire confiance. Je fais confiance à Dieu quand j'espère que Dieu est capable de s'occuper de moi que moi-même. Je peux me tourmenter, c'est ce que Jésus a dit. Même si vous vous tourmentez, vous n'augmenterez même pas un demi-coudé à votre vie. Donc vos tourments ne vous avancent à rien, ne vous ajoutent rien. Mais quand vous savez que c'est le Seigneur qui peut bien s'occuper de moi, c'est le Seigneur qui peut avoir la solution à ces problèmes, alors je lui abandonne, je lui confie, je mets ma confiance en lui. Quand je lui laisse mon problème, j'ai confiance qu'il va s'occuper de ces problèmes et qu'il donnera solution. Amen. Et ici, on a dit que nous devons avoir confiance. C'est que nous devons aussi attendre patiemment qu'il accomplisse le meilleur pour nous. Faire confiance à quelqu'un, par exemple, quand nous allons à l'hôpital, nous faisons confiance au médecin. Et on te dit, il est spécialiste en ceci. Aussi longtemps que tu n'auras pas vu ce spécialiste, tu es angoissé. Mais quand tu es en contact avec le spécialiste de ta maladie, même si sa prescription médicale dit que tu peux prendre des paracètes pour que tu te sentes mieux, même si c'était le mot de tête ou je ne sais quoi, tu vas le prendre avec confiance puisque tu dis, c'est lui qui m'a prescrit ces médicaments, il est vraiment spécialiste. Et je veux guérir. J'ai confiance. Et tu vas le prendre avec toute confiance et tu guériras. Puisque tu as eu confiance à ces médecins. Alléluia.
Amen.
Alors, je voudrais que nous puissions mettre notre confiance à Dieu. Que nous puissions savoir compter sur Dieu. Même si nos problèmes peuvent traîner à être résolus, mais je les déposerai devant qui? Devant Dieu. Même si la situation a fait une année ou trois ans ainsi de suite, ma maison ne sera pas finie puisque je n'ai pas, oui, mais j'ai mis cette charge. Je l'ai déposée devant qui? Devant Dieu. Il va s'en occuper. J'ai confiance que quand il dira que ça finit, ça va finir. Peu importe ce que j'ai. Peu importe ce que je traverse. Quand il dira que la réponse est là, j'aurai cette réponse. Alléluia.
Amen.
Et c'est ainsi que le Seigneur nous appelle aujourd'hui à recommander nos sorts à l'Éternel. Avoir confiance que Dieu ne va pas rejeter ma prière. Dans les psaumes, il y a là où on dit, le Seigneur recueille même mes larmes dans son outre. J'ai maman Pauline, elle a toujours dit, il n'y a pas de poubelle pour tes prières. Tu peux dire à ton ami, il n'y a pas de poubelle pour la prière. La prière va droit devant les dieux des armées. Alléluia. La prière va droit devant les dieux tout-puissants. La prière va droit devant les dieux qui écoutent. Si tu as mis ta confiance
en lui.
Donc, la prière que nous ferons aujourd'hui, la prière que tu as fait tout au cours de cette semaine, ne crois pas qu'on l'a jeté dans la poubelle. Cette prière va droit devant le Seigneur. Et tu peux avoir confiance. Le Seigneur répondra à son temps. Et tu peux commencer à avoir la joie dans ton cœur. Puisque celui qui a pris ton sort, il t'aime bien. Il est capable à te donner la joie. Il est capable à te donner ce que ton cœur désire. Alléluia.
Amen.
Je voudrais que vous puissiez prier avec moi et que chacun de nous puisse dire à Dieu ce que je te demande à cet instant ici. Je veux, Seigneur, que tu puisses les recueillir. Et je veux mettre confiance en toi que ça aura sa réponse tôt ou tard. Je verrai cela s'accomplir. Le Seigneur agira. Prions le Seigneur et la chorale sera entrée chez nous.
Proclame son nom,
sou.